Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une des blouses blanches qui posent les stéthoscopes, grève des médecins libéraux aujourd'hui dans tout le pays. Ils réclament eux aussi davantage de moyens, veulent doubler le prix des consultations. L'assurance maladie ouvre la porte un peu alors que des millions de Français sont confrontés chaque jour aux déserts médicaux. Ce sera l'un des grands dossiers de ce RTL Midi. C'est d'ailleurs la question du jour sur notre site rtl.fr. Faut-il, selon vous, doubler le tarif de la consultation de 25 à 50 euros ? À suivre également le bras de fer qui continue entre la France et la Belgique pour expulser l'imam Iqiyoussen. Un dîner d'État, on en parlait avec Omar et Chandelier ce soir pour Emmanuel Macron à la Maison Blanche. Mais les petites attentions ne cachent pas les tensions entre Paris et Washington. Et puis le mondial au Qatar avec une première tricolore. Ce soir, Stéphanie Frappard, la pionnière, sera la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. L'arbitrage contesté justement hier après la défaite des Bleus 1-0 face à la Tunisie. Une équipe de France remaniée, bien fade. Il faudra montrer autre chose dimanche contre la Pologne. On en parle après le journal.
RTL Midi, plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour La Rochelle avec cette inquiétude chez les pêcheurs. Aura-t-on suffisamment de Saint-Jacques pour les fêtes ? À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nous sommes le 1er décembre. Il vous reste donc un mois pour alléger, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vos impôts sur le revenu, dont investissement. Que faut-il faire ? On vous explique tout. Votre rendez-vous culture, LVT à midi, Bernard Lehu nous fera un premier bilan de la rentrée littéraire. 490 romans, rappelez-vous, mais quels enseignements à la clé ? Ce sera juste avant 13h.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute celui-ci, faut-il nous permettre d'être enterrés avec les cendres de notre animal de compagnie ? Un député républicain vient de déposer une proposition de loi qui va dans ce sens.
La météo, ce sera avec vous tout au long de ce RTL Midi. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ?
Le soleil aura beaucoup de mal à s'imposer cet après-midi sur l'ensemble du pays, avec en prime des températures qui peinent à monter. En moyenne, 7 degrés pour la moitié nord, 10 degrés pour la moitié sud.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Des cabinets qui gardent porte close depuis ce matin. Mobilisation rarissime des médecins libéraux en grève pour 2 jours pour réclamer eux aussi plus de moyens. Et en tête de gondole des revendications, ce doublement du tarif de la consultation classique de 25 à 50 euros. Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour.
Bon, pas sûr qu'il soit entendu sur le montant, les médecins, mais l'assurance maladie semble tout de même faire déjà un pas vers eux.
Oui, il vient directement du patron de l'assurance maladie, Thomas Fatome. Il le promet, ce matin, les médecins libéraux seront bel et bien augmentés.
On veut répondre à cette tension. Je me suis engagé à ce que dans ces négociations, il y ait effectivement des revalorisations des tarifs, notamment de la consultation. Un doublement, vous imaginez bien que c'est considérable. Voilà, 100% d'augmentation, c'est près de 8 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.
Vous l'aurez compris, augmenter le tarif, d'accord, mais le doubler, c'est trop. Rendez-vous donc au plus tard fin février, date limite des négociations pour être fixé sur le nouveau prix de la consultation. D'ici là, le patron de l'assurance maladie s'engage à répondre à une autre demande centrale des grévistes. C'est le besoin d'assistants médicaux, ces assistants qui permettent aux médecins d'alléger leur charge de travail, notamment administratif. Ils sont 4000 en France actuellement et ce matin, l'assurance maladie s'engage à ce qu'il y ait 10 000 assistants médicaux à l'horizon 2025.
Nathan Bocard, et on reviendra sur ce dossier à 12h40. Nous serons avec Céline Bretel, médecin généraliste et porte-parole du mouvement des médecins pour demain.
RTL Midi.
L'affaire Iqiyoussen à présent et ce bras de fer qui continue entre la France et la Belgique.
L'imam marocain que les autorités françaises voulaient expulser s'est enfui, on le rappelle, en Belgique à la fin de l'été avant d'être arrêté par la police belge. Des Belges qui ne veulent pas non plus le garder sur leur territoire. La justice examinait donc ce matin une éventuelle expulsion, Elena Loison. Mais et c'est là que ça peut surprendre, non pas vers le Maroc, mais bien vers la France.
Oui, car en vertu d'une convention bilatérale entre la France et les Benelux, la Belgique estime que c'est vers la France et non pas le Maroc qu'Hassan Iqiyoussen doit être expulsé. La famille a donc déposé un recours contre cette expulsion et c'est là que tout devient encore un peu plus compliqué puisqu'on a appris au cours de l'audience que la France, après avoir bataillé pour obtenir le retour de l'imam via un mandat d'arrêt européen, n'a toujours pas donné son accord à un retour d'Hassan Iqiyoussen sur son sol pour une expulsion classique. Et selon nos informations, la France ne souhaite tout tout simplement pas l'accueillir, car une fois sur le territoire, il faudrait un accord des autorités marocaines pour pouvoir l'expulser au Maroc, avec le risque de recevoir un refus et de se retrouver avec un imam sur le sol français inexpulsable. Même problème pour la Belgique. La décision d'expulsion d'Hassani Kyusen vers la France a été mise en délibéré, mais devrait, selon toute vraisemblance, tomber très rapidement.
Hélène Loison en Belgique pour RTL.
C'était le 29 août dernier à Cannes. Angèle, 89 ans, était agressée devant sa résidence par trois adolescents. Des mineurs qui étaient jugés hier. Enfin, jugés pas tout à fait.
Jugés, mais on n'a pas encore le résultat de
exactement.
Ce jugement. C'est ça que vous vouliez dire, Pascal.
Exactement.
Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'un de ces trois jeunes, celui qui a filmé la scène, a été relaxé. Les deux autres, on le disait, connaîtront leur sanctions en fait, hein, dans 6 à 9 mois. En attendant, Cindy Hubert, ils vont retourner dans un centre d'éducation fermé pour 6 mois.
Oui, absolument. C'est ainsi que fonctionne la justice des mineurs depuis plus d'un an maintenant, depuis la dernière réforme. Une justice en deux temps, avec d'abord une audience qui statue sur la culpabilité. C'est ce qui a eu lieu hier. L'idée, c'est que ça aille vite dans les 3 mois suivant les faits. Puis, dans un deuxième temps, il y aura une audience pour décider d'une sanction dans les 6 à 9 mois à venir. Entre-temps, les mineurs ne sont pas laissés dans la nature. Ils sont soumis à une période de mise à l'épreuve éducative. On regarde comment les jeunes évoluent, comment ils respectent les mesures de sûreté, s'il y en a. Ici, les deux adolescents sont donc en centre éducatif fermé, une mesure sévère, c'est la toute dernière chance avant la prison. Tout cela permet encore une fois qu'il y ait une réponse très rapide, quasi immédiate, quand avant la réforme, les délais de jugement étaient de 18 mois, à condition évidemment que les moyens suivent et qu'il y ait suffisamment de juges des enfants pour respecter ces délais.
Cindy Hubert, spécialiste justice ici à RTL. À l'étranger, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, dénonce les propos pas chrétiens du pape François. Le pape qui a évoqué la cruauté des troupes qui arrivent en Ukraine, ajoutant « Les plus cruels sont peut-être ceux qui viennent de Russie, mais pas de tradition russe, les Tchétchènes, les Bouriates ». Fin de citation. Et puis, dîner d'État ce soir aux États-Unis pour Emmanuel Macron. Alors, il va falloir réchauffer un peu l'ambiance, hein, certainement refroidie par les propos du président français hier, le chef de l'État qui a fustigé les subventions super agressives, ce sont ces mots, par le gouvernement américain pour favoriser les produits made in USA. On y revient dans le journal de 12h30.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Les Bleus ont été bien ternes hier soir, défaite 1-0, même si d'ailleurs il y aurait dû avoir un but partout. On le rappelle, face à la Tunisie lors de leur dernier match de poule.
Oui, puisque le but de Griezmann a été annulé après consultation de la VAR. Alors, la Fédération française de football a déposé un recours, car a priori le règlement n'autorise pas l'annulation d'un but pour hors-jeu après la reprise du match. On attend la réponse. L'arbitrage est une première, en tout cas aujourd'hui. Stéphanie Frappart sera la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. Ce sera entre l'Allemagne et le Costa Rica. Moment forcément particulier pour la française, pionnière, mais pas novice.
Moi, j'ai vécu la Coupe du Monde chez les filles, donc c'est aussi une grosse compétition. On sait à quoi s'attendre sur ces grosses compétitions. Donc forcément, il y aura plus d'attention, plus de médias, et notamment nous, quand on arbitre. Voilà, on sait qu'on sera attendu et on sera là le jour J. Un rêve d'enfant, non, même pas. J'ai commencé l'arbitrage, pas forcément avec cet objectif-là d'aller à la Coupe du Monde. Après, forcément, quand on est compétiteur, quand on arrive en Ligue 2, on veut aller chercher la Ligue 1, et puis quand on est en Ligue 1, on veut chercher l'Europe, et après quand on est en Europe, on veut aller chercher la Coupe du Monde. Donc étape par étape, je suis arrivée à quelque chose qui n'était pas forcément attendu au départ.
Stéphanie Frappart au micro RTL de Nicolas Georgerot. Nicolas, qu'on retrouvera dans quelques minutes pour revenir sur la prestation des Bleus, sur ce qui attend maintenant l'équipe de France. Un 8e de finale face à la Pologne, ce sera dimanche à 16h, évidemment, sur RTL. D'ici là, les rencontres de la journée. À 16h, Canada, Maroc et Croatie, Belgique. Et puis à 20h, Japon, Espagne et ce fameux Costa Rica, Allemagne, dont on parlait à l'instant à propos de Stéphanie Frappart. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le fabuleux podcast Focus, podcast de la rédaction qui lui est consacré aujourd'hui. Et puis, d'un mot, le Tour de France, pour vous dire qu'il arrivera non pas sur les Champs-Élysées, mais à Nice en 2024. Et cette dernière étape sera un contre-la-montre pour terminer. Ce ne sera pas donc la traditionnelle balade avec la coupe de champagne sur les champs. La météo, on vous retrouve Claire Delhomme pour un après-midi qui s'annonce bien gris.
Exactement, donc ça sera gris sur une grande partie du pays avec en prime de la grisaille en fait qui va se transformer en bande nuages bas, parfois apporter quelques bruines, voire quelques flocons en direction du massif central, 800 mètres d'altitude. Là où ça sera le plus lumineux, eh bien ça sera en Bretagne, localement en Normandie, mais aussi en direction de la région Midi-Pyrénées, localement également en Franche-Comté, pourtour méditerranéen, région PACA et Corse, et des températures, comme je vous l'ai dit, qui ont du mal à grimper. Donc nous aurons 2 à 5 degrés dans les Hauts-de-France, Haute-Normandie, Île-de-France, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne. Tout de même, quelques degrés de plus en Basse-Normandie, jusqu'à 8 degrés, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Et enfin, jusqu'à 11 degrés en direction du Pays Basque, vers la Côte d'Azur et la Corse. Merci Claire.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction La Rochelle en Charente-Maritime. Bonjour Philippe Demaria.
Bonjour Céline et Pascal.
La Rochelle où les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques font grise mine. Vous êtes allé à leur rencontre ce matin, le début de la saison est très moyen Philippe.
Oui, Romuald Coutenceau m'a donné rendez-vous tôt ce matin aux cabanes du port de La Rochelle, le port de Chef de Baie. Le patron pêcheur est moyennement emballé par le début de sa campagne. D'autant que l'an passé, eh bien, la saison de la Saint-Jacques avait été stoppée net ici par la présence d'une toxine.
Bah pour l'instant, grosse déception, parce que vu qu'on n'y avait pas touché l'année dernière, on pensait vraiment que cette année, bah, ça n'aurait pas été une grosse saison, on va dire, mais on pensait à mieux quand même. Premier jour, on était à 50% de moins. Donc on n'a pas trouvé beaucoup de coquilles. Avant-hier, on était mardi, on était à un tiers de moins. Je suis sceptique quand même par rapport aux années précédentes, on sent que le début est plus difficile.
Qu'est-ce qui se passe selon vous alors ?
On a un problème avec les étoiles de mer, parce que les étoiles de mer mangent beaucoup de coquilles Saint-Jacques. Et vu que l'année dernière, déjà, on ne les a pas dérangées, donc elles ont été tranquilles pour casser la croûte, comme on dit. Je pense que déjà, il y a ça, et après, bah, on ne sait pas.
Pour l'étoile de mer vorace, on ne peut pas grand-chose, mais la ressource est en tout cas très protégée.
Oui, par exemple, les zones de pêche sont très bien délimitées, bien contrôlées. La saison est ultra courte, mais la Saint-Jacques peut quand même représenter 30% du chiffre d'affaires de Romuald.
On a commencé lundi et on finit entre Noël et le premier de l'an. Là. Et on a 3-4 jours par semaine. 2 heures par jour dans un pertuis et 5 heures dans l'autre pertuis. Pour préserver la ressource surtout. Ben, on veut que ça perdure. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, 35 ans, et ben, j'ai toujours fait des coquilles. Quand il y en a, on va dire que ça nous fait un plus pour la fin de l'année. Il faut pérenniser le truc. Quoi. De toute façon, il faut garder le moral, autrement, c'est pas la peine.
Voilà, Romuald et ses marins ont pris le large de bonne humeur tout de même ce matin vers Oléron, à bord de la Reine de la Mer. Et on leur souhaite, comme à tous les professionnels de la mer qui nous écoutent, une bonne pêche.
Une bonne pêche et un bon appétit pour nous, on l'espère, au moment des fêtes. Merci beaucoup, Philippe Demaria.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Qu'est-ce que vaut cette équipe de Pologne, France-Pologne ? C'est dimanche et c'est l'8e de finale de la Coupe du Monde. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Ça sort et là, c'est terminé,
c'est terminé. L'équipe de France qui s'incline pour ce troisième match de poule. 1-0. Il n'y aura donc que
1-0 donc pour la Tunisie hier soir, malgré l'égalisation d'Antoine Griezmann dans les ultimes secondes. Didier Deschamps avait effectué un gros turnover pour son équipe, mais cette défaite ne rassure pas forcément pour la suite de la compétition. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour à tous.
Vous étiez sur l'antenne d'RTL hier soir, évidemment, pour hier après-midi plutôt d'ailleurs, pour commenter cette rencontre. Bon, faut s'inquiéter, Nicolas.
Bah, y a plusieurs grilles de lecture. La question, c'est est-ce que, parce que l'équipe de France a perdu contre la Tunisie, est-ce que c'est inquiétant avant la Pologne ? La réponse, à mon sens, c'est non, parce que d'abord, c'est pas du tout la même équipe que qu'il y aura. Ensuite, parce que les Bleus sont bien placés pour savoir, ils ont été dans la même situation il y a 4 ans. On avait les mêmes débats, on avait les mêmes interrogations, les mêmes questions. Et Deschamps insiste énormément sur cette compétition en deux temps entre la phase de groupe et ensuite le début de la phase à élimination directe. Donc ça, on verra une équipe tout autre. D'ailleurs, quand Mbappé, Rabiot, Dembélé, Griezmann sont entrés à 20 minutes de la fin, 25 minutes de la fin, on a vu un match qui était tout autre.
Donc ça sera quand même... Il y a eu plus de tirs en un quart d'heure que pendant une heure et quart.
En revanche, sur un point, je suis un petit peu plus nuancé. C'est là où il y a vraiment des enseignements et des leçons. C'est sur le niveau de certains remplaçants, sur la prestation de certains joueurs. Alors, pêle-mêle, les Vertu, Guendouzi, Fofana, Colomwani, ou qui, d'ailleurs, pour certains, ne jouaient pas à leur poste. Là, oui, on peut dire qu'il reste, il y a quelque chose de différent par rapport au Brésil, à l'Espagne, voire à l'Argentine. L'équipe de France a sans doute moins de qualité sur le banc.
Surtout, Nicolas, qu'on répète quand même très souvent qu'un mondial, ça se gagne pas à 11, ça se gagne à 24, à 25.
Oui, c'est vrai. Alors, Deschamps l'a fait pour aussi montrer à certains ce qu'était de faire un match en Coupe du Monde dans une phase finale de Coupe du Monde, et donc le niveau d'exigence que cela demandait, et mesurer aussi le chemin à parcourir. Donc c'est une prise de conscience. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des interrogations si jamais il peut y avoir dans certaines lignes une ou deux défections sur le niveau de certains. Quand si jamais les Bleus vont en quart ou en demi, voire jusqu'au bout, jouer une finale, effectivement, face à une opposition qui sera beaucoup plus forte.
Bon, disons-le, personne n'imagine la France sortie par la Pologne. Ce serait un échec en huitième de finale. Est-ce que
oui, personne n'imaginait que la France allait être sortie par la Suisse en huitième de finale à l'Euro l'année dernière.
Ah, c'est une bonne remarque, Nicolas Jargerot. Donc ma question, faut-il s'inquiéter ?
Bah, c'est une équipe qui a eu un parcours un peu mitigé au premier tour. La Pologne, elle est axée notamment avec un très bon gardien, Chesney, avec le buteur qui était au Bayern, Robert Lewandowski qui est au Barça maintenant. Il y a des visages aussi que l'on a vus en Ligue 1 comme Glick à Monaco. Voilà. C'est une équipe. Le danger pour l'équipe de France, c'est que c'est une équipe qui va être très défensive. Les Bleus en Coupe du Monde, quand ils jouent le Brésil, finalement, ils sont pas trop inquiets. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui joue. Et d'ailleurs, les chiffres et les stats le montrent. Les sont largement en faveur de l'équipe de France face au Brésil. Mais quand l'équipe de France joue une équipe qui est capable de jouer très repliée, de façon très défensive, c'est là qu'il peut y avoir danger pour les Bleus à faire sauter le verrou.
C'est entendu, mais Lewandowski, vous ne parlez pas de Lewandowski, vous parlez de Chesney.
Si je vous ai parlé de Lewandowski, qui est effectivement l'attaquant du Bayern.
Qui était au Bayern, mais qui est au Barça.
Et qui, effectivement, a marqué. Il avait été assez triste sur le premier match parce qu'il avait raté un pénalty. Mais ensuite, il a été important sur les rencontres suivantes pour les Polonais. C'est une équipe qui n'a pu franchir le premier tour depuis 1986 à la Coupe du Monde. Les Bleus ne les ont pu affronter en Coupe du Monde depuis 1982. C'était le troisième match pour la troisième place. Les Polonais l'avaient emporté. Voilà, c'est une équipe, comme je disais, solide, qui peut générer des problèmes à l'équipe de France, suivant comment elle va jouer, avec souvent un bloc très très compact.
Bon, dernière chose, la réclamation, elle a des chances d'aboutir ou pas ?
Bah, il y a une vraie infraction. Oui. D'ailleurs, je pense pas que Monsieur Conger en risque de le voir sur la suite de la compétition, parce que on a revu les images.
La réclamation, c'est parce que le but qui est annulé par la VAR est annulé, alors même que le jeu avait repris et que normalement on ne peut pas utiliser la VAR pour un hors-jeu après la reprise du jeu.
Et ça changerait rien, parce que l'équipe de France serait quoi qu'il arrive premier, mais symboliquement elle n'aurait pas perdu dans ce mondial. C'est la seule chose que ça changerait.
Exactement. Et les Tunisiens resteraient éliminé, mais en tout cas ce serait une grande première, puisque jamais dans l'histoire un score n'a été modifié, changé après coup en raison de l'arbitrage.
Et ben merci beaucoup Nicolas Jargerot, dans une seconde
on va parler de votre déclaration d'impôt pour l'année prochaine. Nous sommes le 1er décembre, la fin de l'année fiscale c'est donc dans un mois. Comment faire pour alléger votre déclaration d'impôt si vous avez la chance d'en payer? On vous dit tout juste après ça.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
comment alléger la douloureuse, comme on l'appelle parfois. Nous sommes le 1er décembre, vous n'avez donc plus qu'un mois pour alléger votre déclaration d'impôt sur les revenus, si vous avez la chance d'en payer. Bonjour Corinne Caro.
Bonjour.
Vous êtes directrice au sein du groupe Le Conservateur, membre du Cercle des Fiscalistes. Et on voulait parler avec vous des possibilités qui s'offrent aux Français qui souhaitent alléger cette déclaration d'impôt sur le revenu. Il y a plusieurs techniques pour ça. Laquelle est peut-être la plus simple, la plus accessible pour des revenus moyens ?
peut-être d'abord définir la défiscalisation. Aujourd'hui, on parle de dispositifs légaux qui ont été adoptés par le législateur et qui permettent de réduire, voire de supprimer. Voilà,
on ne parle pas fraude fiscale ici,
non,
on est d'accord.
On parle niche fiscale, prosaïquement appelée niche fiscale. C'est des secteurs d'activité que le législateur veut encourager, souhaite que le contribuable aille investir ou exercer des dépenses. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être à l'outre-mer, ça peut être favoriser des dons aux œuvres d'intérêt général. Donc ça, c'est assez facile d'accès. On est le 1er décembre. Le 30 décembre, c'est optimiste. Je pense qu'il faut se fixer une quinzaine de jours pour décider que faire dans l'urgence. Il y a des dispositifs complexes qui sont un réel investissement économique qui nécessite de l'analyse. Je suis fiscaliste, mais je me soigne. L'axe fiscal, c'est important, l'économie, mais également l'investissement économique que l'on a. Dans le délai très restreint, on a tout ce qui est dons aux œuvres, où là, il suffit de calibrer finalement la dépense qu'on souhaite faire avec un pourcentage, et après, on a une réduction fiscale.
Pour être très clair, un don à une association reconnue d'intérêt général, si je donne par exemple 100 euros, ça me permet d'économiser, entre guillemets, combien d'impôts ?
C'est 66%.
D'accord.
Donc en gros, si je veux par exemple un avantage de 1 000 euros de réduction d'impôt, il faut que je verse 1 500 euros.
En D'accord. fait, à chaque fois, pour être très clair...
Mais ça coûte de l'argent quand même.
À chaque fois, pour être très clair, voilà, c'est ça. Voilà, on paie plus qu'on économise fiscalement.
Quand on fait un don, c'est une dépense.
Je sors de l'argent.
Et exactement. Bon. Et ce n'est pas un investissement, non. Donc c'est un vrai choix.
Alors, ce qui nous intéresse là, c'est, admettons qu'on gagne 45 000 euros par an. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui gagne 45 000 euros par an ? Il va peut-être payer 6 ou 7 000 euros d'impôts par an. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'il paye moins d'impôts ?
Alors, quelqu'un qui gagne 50 000 euros, qui est célibataire, il a à peu près 7 000 euros d'impôts. Qu'est-ce qu'il peut faire dans l'urgence ? Et il souhaite faire un investissement, c'est-à-dire avoir un retour d'investissement.
Moi, je viens vous voir,
moins d'impôts.
Je dis, je veux payer moins d'impôts.
Eh bien, dans l'urgence, je lui dis, je lui propose la souscription d'un plan d'épargne retraite qui lui permet d'investir, là, à titre financier, à titre personnel, c'est pas un don aux œuvres, et d'avoir donc un retour d'investissement. Il peut faire le chèque, puisqu'il prend date, c'est la date de versement. Il y a des plafonds qui existent, attention, des fiscalisations, des plafonds spécifiques à chaque niche. Des plafonds globaux.
Par
avec
exemple,
le plan d'épargne retraite, je suis hors plafond.
D'accord, il n'y a pas de plafond dans ce cadre-là.
Ce qui est assez simple, c'est que dans mon avis d'imposition de l'année dernière, j'ai mes plafonds de l'année en cours, des années précédentes, donc je sais où
donc
je vais et rapidement.
Pardonnez-moi, j'ai rien compris. J'ouvre un plan d'épargne retraite.
Oui.
Bon, je mets de l'argent dessus ?
Je mets l'argent dessus.
Je mets combien dessus ?
Là, par exemple, si votre contribuable, il a 50 000 euros, il va avoir 10% de plafond cette année, donc il peut faire un versement de 4 500, il va réduire son impôt à peu près de 1 350 euros.
Et ces 4 500 euros-là, il les récupère au moment de sa retraite ?
Au moment de sa retraite, et surtout, dans l'urgence, il prend date, et après... En janvier, en fait, il peut se poser sur son allocation, effectivement.
Il récupérera cet argent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans.
Il récupérera son argent au plus tôt à la date de sa retraite. Voilà. Tout ou partie, etc. On connaît le système de...
Ça, c'est dans l'urgence. Une autre, peut-être, possibilité ?
Après, les possibilités, c'est les dons aux œuvres. Donc, vous l'avez dit.
Les dons aux œuvres, c'est pas de la... Il faut sortir de l'argent de son porte-monnaie.
C'est une certaine forme de générosité.
C'est une forme de générosité. On flèche son impôt, là aussi. C'est-à-dire qu'on sait où il va, mais ça
nécessite... Finalement, il n'y a pas beaucoup de moyens de réduire son impôt.
Après, les deux options,
quand
c'est...
on s'y prend le 1er décembre, c'est compliqué. Après, si on s'y prend dans l'année, c'est un véritable investissement économique. On a d'autres niches fiscales, mais c'est à plus fort enjeu. L'investissement est plus important. On en a aussi des secteurs dans le secteur de l'innovation, etc. Mais je pense que ça prend... Ça demande de la réflexion.
Et puis, de manière générale, pour réduire son impôt sur le revenu, il n'y a que deux solutions. C'est donner ou investir. Mais il faut, de toute façon, s'inscrire dans ces démarches-là qui sont tout à fait légales, on le rappelle.
Ou réaliser certaines dépenses. N'oublions pas la différence entre crédit d'impôt, réduction d'impôt. La réduction d'impôt, il faut être imposable pour que la dépense soit éligible et soit effective. Sur 40 millions de foyers fiscaux, on en a moins d'un sur deux qui payent l'impôt en France. Alors que le système du crédit d'impôt, c'est quand même des dépenses très ciblées. Là, si on dépasse son imposition, l'État vous fait un chèque.
Merci beaucoup Corinne Carreau. Je rappelle que vous êtes la directrice du groupe Le Conservateur et membre du Cercle des Fiscalistes. Merci d'être venue nous éclairer dans RTL Midi.
C'était RTL Midi, votre vie. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de votre grande édition, Céline.
Combien vous coûtera votre chariot de course au printemps ? C'est maintenant que tout se joue. Supermarchés et industriels négocient à partir d'aujourd'hui le prix de ce que vous trouverez en mars dans vos rayons. Attention, les tarifs pourraient grimper. Dîner d'État dans les jardins de la Maison Blanche ce soir pour Emmanuel Macron. À suivre également le mal-être des blouses blanches qui ne se limite pas aux hôpitaux. Grève des libéraux depuis ce matin. Des médecins qui réclament le doublement du tarif de leur consultation de 25 à 50 euros. Nous serons après le jour avec Céline Bretel, médecin généraliste et porte-parole du mouvement des médecins pour demain. À suivre aussi le mondial et les Bleus qui retrouveront la Pologne en 8e de finale. Ce sera dimanche à 16h. Des Bleus et un Bleu qui a bien du vague à l'âme. On parlera de Benjamin Pavard dans le journal Héros du dernier mondial et qui traîne son spleen au Qatar. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi, juste avant 13h. On fera un premier bilan de la rentrée littéraire avec Bernard Lehu. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la grève des médecins libéraux. Faut-il, selon vous, doubler le tarif de la consultation comme il le réclame de 25 à 50 euros?
Et vous aurez la parole à partir de 13h au 32-10.
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Claire Delorme.
Ce sera très gris, très calme, mais tout de même une petite ondée à prévoir vers la pointe du Cotentin et en direction de la basse vallée du Rhône, et surtout des températures en baisse, 7 degrés en moyenne pour la moitié nord, 10 degrés pour la moitié sud.
Merci Claire.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est à partir d'aujourd'hui que va se jouer le montant de votre ticket de caisse du printemps. Début du bras de fer ce matin entre les supermarchés et les industriels pour fixer les prix des produits en rayon. On dit bras de fer. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Bras de fer, c'est loin d'être un effet de style hein, sur le sujet, car cette année, ça s'annonce vraiment musclé.
Oui, parce que les industriels arrivent avec des demandes de hausse de prix très, très importantes. 12% en moyenne dans l'alimentation. Dans ce contexte d'inflation, c'est pour le moins explosif. Aucune chance que les grandes surfaces et leur éternelle guerre de prix bas laissent passer ce type d'augmentation sans combattre. C'est tout l'objet des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui et qui vont donc durer 3 mois. Limiter la casse pour Carrefour, Auchan, Leclerc et les autres. Garder en fait des prix stables ou du moins avoir des augmentations les plus basses possibles pour éviter de perdre des clients. Les industriels, eux, ont besoin de ces hausses pour rentrer dans leurs frais et absorber l'explosion de leurs coûts de production, salaires, matières premières, tout augmente.
Et ce qui va compliquer les négociations cette année, Pierre, c'est évidemment le prix de l'énergie.
Oui, ça complique la tâche pour les deux parties. Côté industriel, certains vont arriver en fin de contrat avec leurs fournisseurs au cours de l'année 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils négocient à l'aveugle. Ils anticipent dans leurs propositions de prix des coûts de production qui augmentent à cause de l'électricité ou du gaz, mais sans savoir si ce sera x2, x3 ou x5. Et puis c'est pareil pour la grande distribution. Elle aussi est concernée par ces factures qui s'envolent ou vont s'envoler. Les enseignes vont voir leur trésorerie baisser. Ça veut dire moins de marge de manœuvre pour prendre à leur charge une partie des augmentations réclamées par les industriels. Bref, les échanges seront tendus jusqu'au bout. Les accords doivent être signés avant le 1er mars.
Pierre Herbulot du service économie d'RTL.
Janvier approche. C'est dans un mois tout juste et avec lui le risque de coupure de courant.
Oui, des semaines hein, déjà que les gestionnaires du réseau et le gouvernement alertent sur cette possibilité. Si les températures descendent trop bas, que les tensions sont trop fortes. Et parmi les conséquences très concrètes sur votre quotidien, Pascal, au-delà de la machine à laver qui ne pourra pas tourner, eh bien, Nery Saïmani, il y a ces écoles qui risquent de fermer.
Absolument. Si l'école se trouve dans une zone où des coupures sont prévues, alors elle sera fermée le matin seulement. Parce qu'imaginez un établissement scolaire en plein hiver, plongé dans le noir, sans chauffage, sans alarme et sans téléphone, c'est trop dangereux pour les élèves. Ils seront donc accueillis l'après-midi et même dès la pause déjeuner, car le gouvernement veut maintenir la restauration scolaire. Alors pour les parents, rassurez-vous, un établissement ne pourra pas être fermé plusieurs fois de suite. Les délestages, s'ils ont lieu, seront tournants, de même qu'une école ne sera pas fermée si elle se trouve sur la ligne électrique d'un site prioritaire, comme un hôpital par exemple. La liste des lieux concernés par ces coupures sera disponible la veille à 17h, mais on le rappelle, et c'est important, le recours à cette procédure reste exceptionnelle et pour le moment, rien n'est encore prévu. Cela dépendra de la météo.
Nerissa Emani pour RTL. Unanimité ce matin à l'Assemblée nationale pour augmenter la retraite des exploitants agricoles. Les députés ont voté la proposition de loi LR qui vise à instaurer un nouveau mode de calcul dès 2026. La retraite des agriculteurs non salariés serait alors calculée sur la base des seules 25 meilleures années et non plus sur toute leur carrière.
RTL Midi.
Les syndicats de police sur la sellette, pointés du doigt par le magazine d'information Complément d'enquête.
Dans son numéro diffusé ce soir sur France 2, il dénonce en effet leur lobby et l'importance démesurée qu'ils ont pu prendre dans l'institution. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Complément d'enquête révèle ainsi comment le syndicat Alliance a obtenu la réintégration de deux agents condamnés pour violence sur mineurs, et cela contre l'avis du ministère.
Absolument, les faits remontent en 2019 à Pau. Un mineur alcoolisé est interpellé. Très excité, il est menotté sur un banc à l'intérieur du commissariat. Il insulte les policiers. Deux agents explosent, deux coups de poing, un coup de pied sont assénés à l'adolescent. 13 minutes de violence selon un témoin direct. Les policiers écopent de 15 mois avec sursis et sont radiés. Mais comme le prévoit la loi, ils sollicitent leur réintégration. L'intérieur s'y oppose fermement au nom de la réputation de la police. Mais le syndicat Alliance pèse de tout son poids et surprise, il obtient gain de cause. Aujourd'hui, les deux policiers ont repris le travail. Le secrétaire général d'Alliance, Fabien Bandemelric, revendique au micro de Complément d'enquête le soutien apporté à ses collègues.
Bien sûr qu'ils ont leur place. Tout simplement pourquoi ? Parce que justement, ils ont été sanctionnés. Alors en effet, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas nécessaire. En effet, c'est condamnable, ils ont été condamnés. En effet, nous devions les défendre.
Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur justifie son revirement en soulignant qu'il s'agissait d'un acte isolé pour des policiers par ailleurs bien notés. Mais l'affaire pose en effet la question du poids des syndicats de police face à l'administration.
Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL.
La diplomatie, au-delà des mots, ce sont aussi de petites attentions. Emmanuel Macron devrait le vérifier ce soir à Washington lors d'un dîner d'État dans les jardins de la Maison Blanche.
Des tentes seront dressées pour l'occasion. Table fleurie, chandelier, voilà pour la déco. De l'ambiance musicale, à l'origine des crustacés et des courges servies, tout a été pensé, William Galibert. Il faut dire que ce dîner se prépare depuis de longues semaines déjà.
Oui, les préparatifs ont commencé au mois de septembre. Les protocoles français et américains se sont organisés pour connaître les goûts ou les allergies des uns et des autres. Et c'est un peu cliché, mais c'est Jill Biden, la première dame américaine, qui a supervisé tout ça.
Ma mère faisait de chaque dîner un moment spécial. Elle sortait la porcelaine, les fleurs et les bougies, même quand on mangeait du poisson pané sorti du congélateur. Elle m'a appris que dresser une table pouvait être un acte d'amour. Setting a table can be
an act of love. Bon, vous vous en doutez, ce soir, ce ne sera pas du Captain Igloo, mais il y aura du homard poché au beurre, une belle pièce de bœuf, fromage et vin américain. Un artiste de la Nouvelle-Orléans, John Baptiste, pour la musique, ambiance bleu, blanc, rouge et sapin de Noël. Jill Biden nous a dit qu'elle espérait que les Français ressentiraient la chaleur de l'accueil. Il le faut, parce que l'ambiance est un peu refroidie depuis qu'Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat en dénonçant les subventions super agressives prévues par Joe Biden pour favoriser son économie face aux entreprises européennes.
Sur la musique, vous l'aurez reconnu, de John Baptiste. La chanson, c'est Freedom. Merci William Galibert aux États-Unis pour RTL.
L'assurance maladie tend la main aux médecins généralistes.
Thomas Fatom, le directeur général de la CNAM, assure qu'une revalorisation des consultations aura bien lieu, même si elle n'atteindra pas la demande des grévistes qui souhaitent, on le rappelle, un doublement de celle-ci de 25 à 50 euros. On y revient après le journal avec Céline Bretel, médecin généraliste, porte-parole du mouvement des médecins pour demain. Ce 1er décembre marque aussi la journée de lutte contre le sida. Les autorités sanitaires rappellent à cette occasion l'importance du dépistage, alors que 5000 personnes ont découvert leur séropositivité l'an dernier en France. Pour Joël, la nouvelle est tombée il y a une trentaine d'années déjà. À l'époque, il n'imaginait pas être encore en vie en 2022. Clément Terra l'a rencontré pour RTL.
Oui, Joël nous accueille dans son appartement très fleuri de la banlieue parisienne. Sa silhouette est fine, la maladie l'a voûté au fil des années. Il résiste depuis 30 ans déjà au VIH.
Dans les années 80, quand j'ai appris ma séropositivité, Jamais, j'aurais pensé qu'à 60 ans, je serais encore là.
Assis sur le canapé de son salon, les yeux rivés vers le sol, Joël raconte les lourds traitements qu'il a dû prendre.
Si ça peut donner une idée, c'est à peu près 46 gélules par jour. Donc c'était relativement lourd pendant plus de 3 ans, oui. Pour essayer de reconstruire mon immunité, tout ce qui avait été détruit par le sida.
Alors aujourd'hui, les traitements sont moins lourds, le sujet est moins tabou. Mais dans les années 90, Joël a subi le rejet d'une partie de sa famille.
La seule personne qui a été très saine, c'est ma maman. Ce soir-là, écoute, tu resteras mon fils quoi qu'il se passe. Et cette phrase-là, en fin de compte, elle me porte dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués. Et en fin de compte, par rapport à mes frères et à mes sœurs, ça a fait un vide total. C'était c'est bien fait pour toi, tu l'as attrapé, il fallait faire gaffe.
Depuis plusieurs années, Joël témoigne dans des lycées. Son but, balayer les idées reçues sur le sida.
Rencontre signée Clément Terra.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Une défaite peut-être en forme d'avertissement pour les Bleus. Hier soir, on en parlera avec Isabelle Langer. D'ailleurs, tout à l'heure, vers 13h05, les Bleus ont perdu, vous le savez.
1-0, battu par la Tunisie avec une équipe largement remaniée. On rappelle que le huitième de finale, ce sera dimanche à 16h face à la Pologne. Équipe largement remaniée, je vous le disais, avec un petit nouveau en défense à droite. Axel Disasi, préféré à Jules Koundé, qui avait pris un carton jaune, on le rappelle, contre le Danemark. Mais surtout à Benjamin Pavard, héros du Mondial il y a 4 ans, mais qui traîne son spleen cette année, Philippe Sanfourche.
Oui, effectivement, cette absence hein, au coup d'envoi, alors noyé dans un torrent de changements, a tout de même interpellé plus que les autres. Benjamin Pavard, certes en difficulté sur le premier match, devait normalement se relancer pour créer peut-être une émulation hein, pour la suite de la compétition. Et puis patatras, Didier Deschamps lui a préféré, comme vous le disiez, Axel Disasi, première sélection pour le Monégasque, à un poste qui n'est même pas le sien. On peut donc parler d'une gifle hein, pour Benjamin Pavard. Et le sélectionneur, sans l'enfoncer, confirme tout de même l'existence d'un malaise.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si ça vous intéresserait, mais je n'ai jamais agi comme ça. J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions. Alors vous me direz, c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait un choix différent.
Alors en coulisses, l'attitude de Benjamin Pavard ces derniers mois a déplu au staff. Diverses déclarations ou messages passés dans la presse pour revendiquer de jouer à un poste plutôt qu'un autre. Son attitude aussi pointée du doigt pendant le rassemblement du mois de septembre. En clair, il était attendu au tournant, il est passé au travers contre l'Australie. Il paye cash et ça va être dur maintenant de revenir dans ce mondial, sauf pépin physique, ce qu'on n'espère pas évidemment pour Jules Koundé.
Jean, il est rancunier un peu là-dessus, il n'oublie rien Didier.
Non, il oublie rien et surtout quand ça a un impact sur la vie de groupe, c'est là où il tranche et là manifestement il estimait que ça en avait un.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Un mot des matchs du jour à 16h, Canada-Maroc et Croatie-Belgique. Et puis à 20h ce soir, Japon-Espagne et Costa Rica-Allemagne. Ce match qui sera une première puisque pour la première fois c'est une femme qui arbitrera une rencontre de Coupe du Monde masculine. Et cette femme, elle est française, elle s'appelle Stéphanie Frappard si vous voulez en savoir un peu plus sur elle. Le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction, lui est consacré. C'est à retrouver sur notre site et évidemment sur toutes les plateformes. Et puis ce petit rappel pour tous ceux qui rêvent d'assister aux épreuves des Jeux de Paris 2024, on en a parlé Pascal, hein, je sais que c'est votre rêve. La première étape en vue d'obtenir les billets a commencé ce matin. Pour ça, il faut s'inscrire sur le site ticket@paris2024.org. Après, il y a une longue série d'étapes avec des tirages au sort. Enfin, on vous expliquera tout ça. Tony Estanguet, en tout cas le président de Paris 2024, sera l'invité de Julien Cellier. Ça, c'est simple, c'est à 18h15 et c'est ce soir sur RTL. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour cet après-midi, assez maussade.
Et c'est ça, maussade, donc à savoir calme, en tout cas grise, mais calme. Nous aurons quelques ondées, principalement sur la pointe de Cotentin, mais surtout en direction du delta du Rhône pour cet après-midi. Partout ailleurs, la grisaille sera de mise. Là où le ciel sera un petit peu plus lumineux, ce sera en Bretagne, en direction des Hauts-de-France, et également des Alpes, vers la région PACA, mais aussi au niveau de l'est de la Corse. Les températures, quant à elles, sont en nette baisse. Nous aurons 6 degrés à Paris cet après-midi, 7 degrés à Nevers, tout comme à Besançon, 7 degrés également à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Brest, 13 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 15 à Toulon.
Merci Claire.
Dans une seconde, les médecins libéraux qui sont en grève. On en parle avec Céline Bretel, qui est médecin généraliste et porte-parole du mouvement des médecins pour demain. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Je me suis engagé à ce que dans ces négociations, il y ait effectivement des revalorisations des tarifs, notamment de la consultation. Un doublement, vous imaginez bien que c'est considérable. Voilà, 100% d'augmentation, c'est près de 8 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.
Thomas Fatome, le directeur général de la CNAM, qui répond à cette demande des médecins libéraux en grève aujourd'hui. L'ensemble des syndicats appelés à cette grève, première depuis 2015, avec en tête de gondole des revendications le doublement du tarif de la consultation, disons classique, de 25 à 50 euros. Bonjour Céline Bretel.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et porte-parole du mouvement des médecins pour demain. Vous avez entendu cette main tendue du président de la CNAM. Est-ce que ça vous rassure d'abord de voir que la porte n'est pas fermée ?
Oui, c'est très bien, la porte n'est pas fermée et nous attendons évidemment une revalorisation de l'acte, de la consultation de base, mais une revalorisation significative. Si on nous propose une revalorisation à 30 euros, ça va clairement pas être suffisant pour pouvoir investir dans nos cabinets et on en a grandement besoin.
Vous demandez 50 euros, vous dites s'il y a 30, ce sera pas assez. À partir de combien vous êtes prêt à lâcher ?
Nous avons une revendication principale qui est une revalorisation à hauteur de 50 euros. Et je tiens à le préciser, nous sommes des médecins conventionnés, nous voulons rester dans la convention.
Mais la CNAM vous dit 50, ce ne sera pas possible d'emblée.
Alors, l'OMS recommande que les États investissent 1% de leur PIB supplémentaire dans la médecine de ville pour soulager l'hôpital. 1% du PIB en France, nous, ce qu'on leur demande, c'est une enveloppe de moins de 10 milliards, environ 6 milliards. Et 1% de notre PIB, ce serait 23 milliards. On demande finalement une petite enveloppe. Encore une fois, si on arrive à soulager l'hôpital en réinvestissant dans la médecine de ville, c'est tout ce qu'on demande.
Non, mais c'est vrai qu'il y a consensus pour trouver que 25 euros, c'est généralement entre 30 et 45 minutes, une consultation de base, que vous avez fait plus de 10 ans d'études, souvent, et que on peut imaginer que les médecins aujourd'hui ne soient pas aussi bien payés que leurs prédécesseurs. Et c'était ma question. Est-ce que vous savez, la consultation de base dans les années 70-80, à quel prix elle était et si vous étiez mieux payé d'une certaine manière ?
Alors moi, je n'étais pas encore née, personnellement.
J'entends bien, mais...
Il me semble que c'était entre 80 et 100 francs.
Voilà, vous comprenez le sens de la question.
C'était entre 80 et 100 francs. Effectivement, je pense que les médecins, à l'époque, vivaient mieux qu'actuellement, pouvaient prendre beaucoup plus de temps auprès du patient. Les médecins étaient beaucoup plus dans le soin. Actuellement, avec les 25 euros, nous aussi, on subit l'inflation, comme tout le monde. Les cabinets médicaux, c'est des petites entreprises, on subit l'inflation. Et avec 25 euros, on vit beaucoup moins bien qu'avant. On dit souvent que les médecins sont des nantis, mais c'est fini, ça.
Pour être très clair, passer la consultation de 25 à 50 euros, ça voudrait dire doubler le salaire pour vous ou pas du tout ? On ne sait pas de ça qu'on parle.
Alors pas du tout. La consultation actuellement, justement tout ça manque beaucoup de transparence et la consultation est en réalité à 35 euros en moyenne. Si on compte toutes les différentes consultations, on a plein de codages malheureusement qu'on aimerait bien éviter. La consultation de base à 25 euros, les enfants à 30 euros, les visites à 35, les visites longues à 70... plus, sans compter toutes les primes et les subventions qu'on voudrait bien arrêter également, que l'État nous donne et dont on ne veut plus, nous sommes en fait à 35 euros. On voudrait que l'État arrête de nous donner ses primes, le forfait ROSP et structure, qui n'ont aucun intérêt de santé publique par ailleurs, et qui le réinjecte dans une tarification de base à 50 euros qui permettrait beaucoup plus de transparence vis-à-vis du contribuable en plus.
Et sur 50 euros, il vous en reste combien, vous, très clairement, dans la poche à la fin ?
Alors, on n'a pas encore 50 euros. Ce que je peux vous dire, c'est que sur 25 euros, il nous reste 9 ou 10 euros pour nous.
D'accord, bah c'est plus clair comme ça. Merci beaucoup. Oui. Céline Bretel, je rappelle que vous êtes médecin généraliste, porte-parole du mouvement des médecins pour demain.
Dans un instant, on va parler des livres. Il a lu les 490 nouveaux romans de la rentrée. Vous vous rendez compte, Bernard Lehu, il les
pas
a tous
tout,
lus.
Mais pas
si,
du
vous
tout.
Les avez tous lus. Mais il imite. Et il va nous dire quels sont ceux qu'on doit acheter pour Noël, parce que c'est les cadeaux de Noël. À tout de suite.
Ça approche.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi aujourd'hui, donc c'est l'heure du bilan avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour.
La rentrée littéraire, spécialité bien française, 490 nouveaux romans. Je voudrais d'ailleurs savoir, il y en a qui ne doivent même pas se vendre, si ça se trouve. Qui doivent se vendre à 10, 5.
Je vous le confirme. Oui, oui. Évidemment, des livres mort-nés.
Bon, une rentrée conclue par le traditionnel marathon des Grands Prix de l'automne.
On va revenir sur tout ça dans le détail, hein, Bernard, mais d'abord... peut-être une impression générale sur cette rentrée 2022 ?
Mollassonne,
Molasson. L'affluence dans les librairies n'était pas exceptionnelle, hein. Pas de, également de livres à sensation, de grandes révélations. Il faut rappeler que l'année précédente était une année record, hein, un rebond spectaculaire après des longs mois de confinement qui avait pénalisé l'activité des libraires en 2020. Donc voilà, il faut relativiser les chiffres, les impressions de cette année. Et puis il y a aussi l'inflation, hein, cet automne, qui pèse sans doute sur les achats de livres. On constate d'ailleurs que les ventes sont globalement inférieures aux chiffres habituels, même pour les auteurs abonnés au succès.
Et vous dites ça alors qu'on a quand même un prix Nobel de littérature. Alors quels sont ceux qui tirent malgré tout leur épingle du jeu ?
Sans surprise, Guillaume Musso, qui caracole en tête des ventes. Angélique s'est déjà vendu à 220 000 exemplaires. Il est suivi par Virginie Despentes. Cher connard, son nouveau livre
ça,
au titre incroyable. Bien accrocheur.
Mais qui achète ça, cher connard ?
Bah 195 000 personnes apparemment.
Bah voilà. Hein,
mais on sait le profil des jeunes
un public assez jeune, un public aussi très sensible à la cause féministe évidemment, puisque Virginie Despentes aujourd'hui est une icône du féminisme. Donc 195 000 exemplaires pour Virginie Despentes, bah on peut dire que c'est d'ores et déjà un succès. Et puis devinez qui complète ce trio de têtes. Amélie Nothomb, bien sûr. Le livre des sœurs, son 30e roman, en est lui à 120 000 exemplaires. Les autres livres de la rentrée sont loin derrière. Hein. Aucun ne dépassait les 50 000 ventes avant l'attribution des grands prix littéraires.
Et les prix peuvent changer la donne, justement, Bernard ?
Logiquement, bien sûr, mais la plupart des ouvrages récompensés cette année, ça c'est vraiment propre à cette année, partent de très bas. Malgré le pouvoir de prescription des prix, il est à craindre que les couronnés de cette année ne réalisent pas de très gros scores. Chez Flammarion, l'éditeur de la lauréate du prix Goncourt, Brigitte Giraud, pour Vivre vite. On y croit, pourtant, le livre a été retiré à 400 000 exemplaires, à partir de 7 000. Les ventes en sont aujourd'hui à plus de 80 000. Le défi est encore plus risqué pour les autres prix. Pour l'instant, tous les lauréats, qu'il s'agisse du Renaudot, du Fémina, du Goncourt des lycéens, pour ne citer que les principaux, sont à moins de 15 000 exemplaires vendus. Hein, c'est très bas.
À une exception près, Bernard, le Grand Prix du roman de l'Académie française.
Oui, alors qui a été décerné, vous en souvenez, au match du Kremlin de Giuliano d'Ampoli. Il totalise près de 150 000 ventes. Alors, il faut préciser que c'est un cas particulier, puisqu'il était sorti bien avant la rentrée littéraire, au printemps dernier, et qu'il était déjà l'un des succès de l'année.
Et il parle de l'actualité Poutine qui passionne.
Bien sûr, le conseiller occulte qui a fabriqué Poutine.
Bon, on a beaucoup parlé chiffres. Oui. Bernard, qu'est-ce que vous nous recommandez ? Le Goncourt, il est à conseiller ou pas ?
Oui, moi, je l'avais dit dès la rentrée. Hein, Vivre vite, pour moi, c'est le livre le plus bouleversant de cet automne. Brigitte Giraud tente de comprendre 20 ans après si la mort de son mari, Claude, dans un accident de moto aurait pu être évitée. D'un drame intime, elle fait un livre magnifique sur la consolation. Bien sûr, vous allez me rétorquer, mais ça n'est pas de la fiction, ça n'est pas un roman.
Non.
Oui, mais c'est de la littérature. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
Bien sûr.
Quelques recommandations.
Alors, voilà. Moi, je dirais que, pour moi, les meilleurs prix ne sont pas forcément les plus prestigieux. Mon prix des prix, c'est le Renaudot des lycéens, également prix Jean Giono. Retenez son titre, On était des loups, de Sandrine Collette.
Vous en avez beaucoup parlé.
Ben oui, et puis on la connaît bien ici, puisqu'elle a remporté le Grand Prix Arte Lire en 2020. Si vous aimez le suspense, l'aventure, les grands espaces, je ne vois pas comment vous ne pourrez pas être bluffé par l'odyssée de ce père et de ce fils qui vont apprendre à s'aimer. Alors là, on est dans le pur, dans le grand romanesque. On était des loups, c'est publié chez La Thèse.
Et c'est à mettre sous le sapin si on vous écoute. Merci beaucoup, Bernard Lehu.
Dans une seconde, le football avec Isabelle Langer, les auditeurs jusqu'à 14h30. À tout de suite.
RTL Midi.